Bien, on a posé le décor, Arnaud. Maintenant, on va rentrer dans un petit peu le vif du sujet. Donc, on a dit on va parler de Microsoft Advanced Threat Analytics. Donc, nouvel outil de Microsoft, issu, je crois, d'un rachat. Tu vas nous en parler. En gros, c'est quoi?
Eh ben, d'abord, c'est effectivement un produit, comme tu le disais, qu'on a racheté à une société israélienne qui s'appelle Aorato, hein, qu'on a racheté maintenant il y a quelques mois et on l'a intégré très très rapidement dans notre gamme de produits. Je crois que c'est un des produits qu'on intègre le plus rapidement dans notre gamme de produits parce qu'on a vraiment un engouement qui est très très fort pour cette solution parce que ça répond vraiment à cette thématique de sécurité qu'on discutait jusqu'à présent. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, ATA, Advanced Threat Analytics, c'est une solution qui est faite pour le data center et puis qui doit nous permettre de suivre en gros le cycle de vie d'une intrusion sur le réseau, c'est-à-dire de la détection toute initiale où la personne reçoit un email avec une pièce jointe un petit peu bizarre, et puis aux attaques qui commencent éventuellement, qui auraient été échouées d'être détectées par les premiers éléments, qui commenceraient à résulter d'un comportement bizarre de l'utilisateur sur le réseau. Par exemple, comme tu disais tout à l'heure, Roger de la Compta qui reçoit tel email, et puis d'un seul coup, son poste, avec l'usurpation de ses credentials, va aller consommer l'ensemble des ressources sur le réseau. Bah, en gros, l'idée avec ATA, c'est qu'on est un petit peu comme tu as dans le monde de la carte bancaire. Je ne sais pas si tu as déjà eu ta banque qui t'appelle. Tiens, c'est bizarre, monsieur Castana, on a remarqué qu'il y a une transaction qui est en train de s'effectuer aux Seychelles avec votre carte bleue.
Eh bien, écoute, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, j'étais super étonné parce qu'ils ont une réactivité, je pourrais même les citer, c'était ma caisse d'épargne, hein, pour une fois que je leur fais de la pub, où effectivement ils m'ont contacté quasiment dans l'heure qui a suivi. On m'appelle, on me dit, voilà, il y a eu deux retraits. C'était pas des gros retraits, hein, on était sur, je crois, 8 et 10 euros, donc c'était pas des choses très importantes. Mais effectivement, les deux retraits avaient eu lieu dans deux endroits différents dans le monde, justement. Il y a eu Venezuela, je crois, et peut-être Brésil ou le Caraïbes, je sais plus. Et ils ont dit, est-ce que vous avez fait ces achats? Et bon, aujourd'hui, comme on achète en ligne, à la limite, j'aurais pu acheter sur un site web qui était au Brésil ou au Caraïbes, à la limite, c'était possible. Et pour deux petites sommes, hein, donc on était sur moins de 20 euros. Et effectivement, tout de suite, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, est-ce que c'est normal ça? Donc je fais, ben, non, je n'ai pas fait d'achat, je suis en train de travailler tout de suite, là. Et du coup, ben, ils ont verrouillé effectivement ma carte. Donc ils ont effectivement un système comme ça, de pattern comportemental, qui fait que des fois, ils peuvent déclencher des choses. Donc là, ça a déclenché probablement une alerte et un workflow humain après qui est parti, qui m'a appelé. Donc ça, c'était une vraie détection d'un vrai problème. Mais parfois, un pattern, il n'est pas forcément bien respecté. Je crois que c'était déjà arrivé également d'avoir des appels de ta banque pour tes activités suspectes qui n'étaient peut-être pas tant que ça.
Oui, c'est vrai que moi, pour ne pas nommer non plus HSBC, hein, nous voyant que je voyage toutes les semaines, au bout de quelques semaines, ça les a énervés. Et puis, ils me disent, oh, tiens, on vous a bloqué votre carte. Je me dis, mais pourquoi? Assez raconté notre vie, c'est comme ça que ça marche à terre en fait. C'est que globalement, on va avoir un pattern, un comportement qui est bizarre. On va comparer avec une base de ce qu'on connaît. On va double-checker, entre guillemets, pour éviter d'avoir des faux positifs comme le cas de ma banque. Et puis, on va donc prévenir et reporter l'information à l'utilisateur de manière pertinente après cette double vérification. Donc, avec une interface de reporting qui est super simple, je te montrerai ça tout à l'heure. Ça ressemble à des choses qu'on connaît par ailleurs, hein, dans notre activité de tous les jours, eh bien, on aura un reporting qui est vachement cool. Donc voilà, ATA, avec une petite analogie dans le monde bancaire, à quoi ça correspond.
D'accord, donc là tu as parlé d'analyse comportementale. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée ces fameux patterns, qu'on dise s'il fait ça et ça, alors je déclenche ça. C'est intégré, c'est parce que finalement, si on doit commencer à créer sa propre règle, en général, on oublie toujours des choses. C'est le
Ouais,
principe.
et puis on les fait la première semaine, hein, et puis après,
Puis après, on
on
laisse
arrête,
vivre
hein.
tout seul, hein,
Et
aussi.
ben, l'idée, c'est que non, en fait. C'est le produit qui va d'abord détecter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'organisation, voir quel utilisateur ont quel type d'activité. Et puis ensuite, il va, à partir de quelques jours, je te donnerai l'intervalle tout à l'heure, à partir de quelques jours, il va commencer à reporter des choses qu'il jugera intéressantes après son apprentissage, basé sur les patterns d'utilisation qu'on voit dans l'environnement.
Comme tu me décris enfin, ce mode de fonctionnement où effectivement on collecte de la donnée, on apprend et après on en déduit des choses, ça me fait penser à ce qu'on appelle du machine learning avec le big data.
Il y en a.
Il y en a.
C'est un peu l'idée, hein. Globalement, c'est vraiment de l'innovation, des choses qu'on fait à l'heure actuelle. Eh bien, ça en tire partie assez directement.
D'accord.
C'est on-premise, hein. Ça se passe dans ton data center.
D'accord.
Il n'y a pas de relation avec ce qu'on peut faire par ailleurs dans Azure, Machine Learning et autres.
D'accord.
Là, c'est que dans ton data center.
Mais donc, effectivement, ça, du coup, ça, je pense que ça va impliquer probablement d'accumuler une certaine masse d'informations pour que ça commence à prendre une vraie valeur, entre guillemets. C'est pas sur un exemple ou deux exemples qu'on peut dire, ça, c'est un comportement pas bon, pas. Il va falloir, je pense, analyser, collecter et
Alors,
traiter.
ça va dépendre du type, de menace auquel on est en train de revoir sur le réseau. Hein. Mmh. Si effectivement tu as l'utilisateur qui se balade sur un serveur et puis ensuite il va sur plein d'autres serveurs, ça va prendre un petit peu de temps à être appris dans un premier temps le pattern d'utilisation. Par contre, si tu vois un utilisateur qui est en train de te faire des golden tickets de tous les côtés, des tickets Kerberos qu'il a forgé lui-même, là on va pas mettre très longtemps avant de le détecter, avant d'apprendre ce qui est en train de se passer.
Parce que ça, c'est des attaques connues avec les outils comme Mimikatz ou autres, par exemple.
Absolument. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on fait de l'analyse comportementale. Du coup, on apprend en même temps que le système. Il n'y a pas d'humains qui interviennent. Du coup, ça prend du temps à apprendre les nouveaux patterns qui sont en train de se passer. C'est directement le software qui s'adapte en fonction du comportement. On reporte ça rapidement avec, allez, on peut le dire maintenant, le mot, c'est fait une espèce de timeline, la console de reporting de ATA. Donc on voit un écran comme ça qui nous dit un petit peu à la mode Facebook, je détecte tel utilisateur qui est en train de passer telle et telle chose sur l'environnement. Donc on peut explorer comme ça et faire une investigation très très simple basée sur une interface qui ressemble à des médias sociaux.
Donc plus on descend, entre guillemets, plus on remontera sur la cause, la route cause, le point d'entrée ou le début de l'attaque, entre guillemets.
Voilà, tout basé sur du contexte. En fait, on va aller d'abord voir sur l'alerte, ensuite on peut aller voir le pattern sur l'utilisateur et descendre sur tout ce qu'on a vu comme étant un changement de comportement de l'utilisateur. Okay. Et puis, on le disait tout à l'heure, c'est éviter les fausses alertes, simplement consolider les différentes sources d'informations de ATA et les différentes règles d'intelligence pour éviter de faire des faux positifs. Parce que un système faux positif, dès qu'on en a trop, on finit par laisser la console en mode sapin de Noël dans un coin et puis on s'en fout. On ne le traite plus.
Donc là on est vraiment, c'est à retenir, c'est que plus on va collecter, plus on va s'en servir, plus ce sera efficace. Donc comme les piles Vendaire, ça ne va être utilisable, ça ne va s'user que si l'on s'en sert.
Absolument. Alors, en matière de fonctionnalité, effectivement, prise en charge de la mobilité, parce que quand tu as un utilisateur qui va passer d'un réseau à l'autre, quand tu as un utilisateur qui se connecte en VPN, on va prendre en charge ces réseaux comme ça, avec des durées de vie de connexion qui sont faibles.
Puis là, du coup, ça tient compte également, je pense, probablement des localisations, ça tient compte des heures de connexion, ça tient compte de plein de choses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils sont également mobiles, ils ne sont pas forcément juste toujours dans un réseau connecté en filaire.
On prend aussi, pour faire cette vérification des événements en matière de sécurité qui se passent sur l'environnement, on va pouvoir s'intégrer avec les SIEM.
Alors, SIEM, rappelle-moi.
Security Information and Event Management, c'est en gros un système dans le système d'information qui fera une collecte centralisée des journaux d'événements de sécurité qui se passeraient sur l'organisation.
D'accord, donc par exemple, on va collecter les journaux des firewalls, le journaux des serveurs VPN, le journaux des switches.
Voilà, le journaux de tes Linux, de tes syslogs, de tes switches, de tout ce que tu veux. Enfin, tu peux récupérer, tu peux consolider tout ça dans un seul endroit. Donc, on sait échanger des informations avec les SIEM pour aller corréler ce qu'on est en train de trouver par ATA. Par ailleurs.
Donc là, on est sur des SIEM, je veux dire, globalement, on s'intègre avec la plupart des SIEM du marché, on utilise des protocoles standardisés, je suppose.
Voilà, c'est du syslog, choses comme ça, classiques. On s'intègre et on se déploie facilement aussi dans le système d'information parce qu'on va déployer ça sans s'installer d'agents sur les contrôleurs de domaine, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de solutions de sécurité qui vont s'installer, en fait, qui vont venir comme un hook sur NTDS, donc un hook dans tous les appels qui vont passer à Active Directory sur un contrôleur de domaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le contrôleur de domaine il est compromis, on peut imaginer qu'il y aura tout un ensemble de trucs qui vont passer à travers les mailles du filet. Et puis, d'une manière un petit peu plus basique, ça veut dire aussi souvent qu'il y a des hooks, c'est pas très bien écrit, ça fait perdre du temps en CPU, les DC sont moins performants.
C'est-à-dire qu'il faut faire confiance également au logiciel de sécurité qui surveille la sécurité, parce que potentiellement il va utiliser des privilèges assez importants, qui tournera comme service pour lire des choses sur l'AD.
C'est un driver qui va s'installer dans le système, du coup.
Pas forcément apporter de la stabilité à l'ensemble également, donc c'est pas une très bonne idée.
Ouais. Donc du coup, on n'installe rien sur les contrôleurs de domaine, nous. On va venir en mode, ça s'appelle le port mirroring, sur l'ensemble des contrôleurs de domaine de l'information. Alors, port mirroring,
très connu de tous les admins de réseau depuis la nuit des temps.
Exactement, ça veut dire que tu dupliques tout le trafic qui se passe sur un port, tu vas l'envoyer sur un autre port, et comme ça, l'autre machine va pouvoir te servir à prendre une trace réseau, analyser ce qui se passe sur le port de la machine principale.
Alors ça, c'est bien dans le monde physique, effectivement, le matériel réseau et le port mirroring, c'est une chose qui existe depuis la nuit des temps, parce que c'est ça qui sert à débugger souvent les problèmes.
Ouais.
Mais aujourd'hui, on a quand même tendance plutôt à faire de la virtualisation, et du coup, on se pose la question, c'est comment on va faire fonctionner ça avec de la virtualisation?
Ces modèles de port mirroring, en fait, ils existent aussi pour les switches virtuels. Donc avec le switch virtuel Hyper-V, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la mise en place de mon petit environnement de test, on va pouvoir aussi faire du port mirroring et dire, tu me dupliques tel port sur tel autre port, comme ça je peux faire l'analyse de ce qui se passe dans mon environnement.
Très bien.
Voilà pour ce petit tour d'horizon, cette espèce de mise en bouche sur ATA. Dans le module 3, on regardera ça un petit peu plus en détail.